Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium National. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. On est également diffusé à BPM Sport tous les lundis soirs et en reprise durant les week-ends. Isabelle Étier, tu te joins à nous. Rebienvenue sur l'émission. Comment te portes-tu? Ça a bien été. Bon, les dernières semaines, là, je t'ai croisé dans quelques. Je t'ai croisé dans les bureaux de la LHMQ. Alors, tu es encore dans plein de dossiers.
Oui, puis du beau tennis. J'ai repris ma ligue de tennis. Donc, la compétition est repartie. Malheureusement, défaite dès la première semaine, mais bien combattue. Donc, une belle saison de tennis intérieur qui commence, même malgré qu'il y a des belles journées d'automne dehors, là, avec le beau temps dehors, les feuilles qui deviennent rouges. C'est bien agréable.
Ben, Hugues le dit hein, souvent, on est très bon au Canada en tennis intérieur. Alors, voilà, ce sera à toi de développer tes skills sur ce qu'on appelait autrefois carpet, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Là. On ne joue plus vraiment sur carpet. Hugues Léger, comment te portes-tu en direct de tes bureaux de tennis Montréal? Est-ce que ça commence à se calmer? Y a-t-il des gros projets pour l'automne et l'hiver?
Ben, il y a eu des grosses rénovations ici. Les terrains 6 à 12 ont été resurfacés la semaine dernière dans un temps record. Moi, je suis toujours impressionné de voir comment ils réussissent à refaire les terrains si rapidement. Donc, on a 6 nouvelles surfaces. En fait, 5, ils ont refait 5 des 6 terrains 6 à 12. Donc, tout neuf. Si vous venez au stade cette semaine, c'est accessible à tout le monde. Là, c'était bloqué la semaine passée. Des gros travaux de rénovation avec une mezzanine en construction sur le côté des terrains 1 à 6 qui vont accueillir des espaces de physio, gymnase, bain de glace et tout ça pour les joueurs et joueuses dans les prochaines années. Donc, des gros travaux au stade IGA quand même en ce moment. Mais la saison d'automne intérieure est bien commencée. C'est parti, mais on peut jouer dehors encore, donc tout le monde en profite. Fait que ça va bien. Moi aussi, je profite autant que possible des dernières journées pour jouer à l'extérieur. Je regardais d'un œil, je dois l'avouer, un peu distrait la Coupe Laver ce week-end, mais j'ai quand même suivi plusieurs portions. On va en parler parce que c'est une année un peu charnière, je crois, avec ce qui s'est passé cette année.
La lune de miel est finie, en tout cas.
Ouais, on va en reparler. Puis j'étais heureux de voir aussi une Maria Sakkari qui enfin gagne son deuxième titre. L'éternel quart de finaliste, demi-finaliste du circuit qui finalement vient remporter un WTA 1000 quand même, son premier WTA 1000. Ça faisait chaud au cœur. Et aussi Alexis Galarno qui fait une finale, qui poursuit sur sa lancée après la Coupe Davis.
Ouais, on va parler de tout ça avec Abraham qui va venir nous jaser un peu plus tard dans l'épisode. Parlons-en de tennis puisque c'est notre mandat, mon cher Hugues, et commençons avec la Coupe Laver. On va d'abord et avant tout parler des résultats, puis on parlera après certaines controverses là, qui tournent. Je ne sais pas si c'est controverse, mais on commence à décortiquer un petit peu plus. Pendant longtemps, là, c'était la lune de miel. Là. C'était la nouvelle façon de faire du tennis. On n'avait que des compliments pour la Coupe Laver. Et là, pour peut-être la première fois, on commence à critiquer un peu l'événement. Et c'est normal. Ça, on en est à quelques éditions déjà derrière nous. Oui. Je ne m'attends quand même pas de voir le terrain noir. Là. Je le trouve tellement, tellement beau. Terrain qui a certainement pas favorisé Team Europe. Peut-être ton analyse de ce qui s'est passé parce que ça a été à sens unique cette Coupe Laver-là avec Team Monde qui et certains reprochent en disant c'est plus Team Canada-États-Unis maintenant que Team Monde.
Il y a plusieurs points, je pense, à souligner cette année. Premièrement, c'était la 6e édition. C'est 4 victoires pour Team Europe, 2 pour Team World. Les 2 victoires sont venues dans les 2 dernières éditions, il faut le souligner, parce que ça témoigne aussi du regain ou la résurgence du tennis américain avec des TFO, Fritz, mais aussi Shapovalov et Félix, du côté canadien, là, qui sont des joueurs importants au fil des années. Donc, 6e édition. Ce que je remarque, par contre, très peu de top 10 du côté de Team Europe. On avait Roud et on avait Roublev, donc 6e et 9e ATP, et seulement Fritz du top 10 du côté américain. Et ça, je pense que ça a fait un petit peu mal, parce qu'on regardait les premières éditions. compétition, c'était les meilleurs joueurs des deux côtés à chaque fois. Tu avais des Nadal, tu avais des Federer, Zverev, qui sont des fidèles de la Coupe Laver. Team World faisait un peu moins bien parce que les classements étaient plus bas. Le top 10 était largement dominé par les joueurs européens. On pourrait mettre Medvedev et Djokovic dans le mix aussi, évidemment, qui ont joué à la Coupe Laver. Mais je pense que les joueurs du top 10 qui n'étaient pas présents, ça a fait mal un petit peu. On avait annoncé Miloš Raonic qui n'a pas joué finalement, mais bon, qui faisait partie quand même de l'équipe. Mais c'est une année, je pense. Moi, je pense que le format marche encore parce que le dernier jour, on sait que les points augmentent jour après jour. Fait que même si tu es derrière avant la troisième journée, tu peux te refaire encore parce que tu gagnes trois points par match au jour 3. Mais là, c'était tellement rendu loin d'avance. Là, c'était rendu 10-2 avant la dernière journée. C'était impossible de remonter. Donc, victoire de 13-2. De l'équipe monde coachée par John McEnroe. Mais je pense que Federer qui nous disait « Ah, j'aimerais ça que Djokovic et Alcaraz jouent dans la même équipe l'an prochain », il faisait un peu de damage control aussi. Là. Il nous projetait sur l'an prochain déjà pour dire que des grands joueurs, les grandes vedettes seraient de retour.
Ben, écoute, moi, j'ai pas d'enjeu par rapport au système de pointage. Je l'aime, le système de pointage où tout n'est pas réglé vraiment avant la journée 3. Pourquoi pas? Là, ça garde le monde en haleine. Quand on regarde les résultats un peu plus spécifiques, et Isa, je vais aller à toi, mais il y a quand même... Bon, Félix est en recherche de confiance, gagne pas souvent. Est-ce que cette semaine-là, pour Félix, pourrait l'aider? On parlera de ce qui a été autour. Parce qu'il a quand même battu Gaël Monfils. Il a gagné un match en double. Écoute, on va prendre le positif où il y en a pour Félix dans les dernières semaines. Ça n'a pas toujours été... On n'a pas eu beaucoup de positifs pour Félix. Isa, je commence avec toi. Est-ce que ça peut l'aider pour sa fin de saison?
Bien, clairement que oui. Je pense aussi le fait d'avoir joué en équipe, d'avoir été un peu comme un capitaine, vu qu'on était à la maison, c'était le joueur qui représentait le Canada, on était à Vancouver. En tout cas, moi, j'ai ressenti, on le regardait beaucoup avec une impression comme McEnroe. Même les autres joueurs, c'était Félix, c'était le leader. Donc, je pense que ça peut certainement lui donner confiance, aider à aller de l'avant. Maintenant, c'est sûr que c'est sur le terrain que ça se passe. C'est facile de jouer lorsqu'on a toute une équipe derrière nous, lorsqu'on veut gagner pour les autres. Moi, je sais, je suis une joueuse comme ça. Quand c'est juste pour moi, je suis moins performante que quand je vais jouer pour mon équipe. Donc, en espérant que bon, ça lance puis que ça fasse comme l'année dernière, une belle fin de saison.
Hugues, est-ce que ça peut être un peu positif? C'est sûr que c'est une compétition hors concours. C'est borderline entre un showcase et une compétition. Oui. Là. Et d'ailleurs, ça a été justement sur ce point-là. Mais est-ce que ça peut aider Félix?
Oui, tu vas au cœur du truc en disant ça parce que Félix prenait ça très au sérieux. On l'a vu dans son altercation verbale avec Gaël Monfils. Monfils, il faut quand même le souligner, 142e mondial. Il arrivait du Ultimate Tennis Challenge de Mouratoglou la semaine dernière, tout comme Roublev en passant, qui était plus dans un mode, on va se le dire, exhibition que tournoi sérieux, entre guillemets, parce que je dirais pas que c'est pas un tournoi sérieux, mais on lui a dit, je peux être libre, je peux m'amuser, je peux être relax en venant ici. Donc, c'était du Gaël Monfils comme on l'aime aussi, puis qui peut jouer très bien. Un n'est pas incompatible avec l'autre. Là. C'est un joueur qui peut être extrêmement divertissant, mais bien joué. Mais Félix était extrêmement sérieux, on le voyait. Et lui, il n'a pas trouvé ça drôle, ses phrases ou le fait que Monfils prenait du temps un peu.
Oui, il prenait du temps.
Donc, au changement de côté, il dit à l'arbitre, est-ce qu'on joue par les règles de l'ATP ou pas? Et là, l'arbitre a été pris de court un peu. L'arbitre a dit oui. Il dit, dis-moi, Gaël, parce que ça ne marche pas. Ça a commencé comme ça, en fait. Là. Et là, c'est pour ça que je pense que Félix voulait effectivement se redonner un petit élan positif dans une saison extrêmement laborieuse. Donc, il ne voulait pas rigoler avec ce match-là. Il voulait le gagner. Il voulait bien faire à la Coupe Laver pour bien relancer la fin de sa saison. Il est en Chine maintenant. Là, il est là pour la tournée asiatique qui commence cette semaine. Mais Félix prenait ça très au sérieux. Mais la question est maintenant posée. À quel point c'est une exhibition et à quel point c'est sérieux? Et pourquoi on devrait y participer au-delà du 250 000 $ qui est garanti pour chaque joueur? Donc, je pense que c'est cette question-là là, qui va être sur le plancher durant les prochaines semaines. Et avec trois tournois post-US Open, on est juste, écoutez les gars, les filles, on est le 25 septembre, on a vécu une Coupe Davis, un UTS, un WTA 1000 et la Coupe Laver depuis trois semaines. Comment c'est gérable au niveau du calendrier? Donc, il y a des joueurs qui font des choix.
Écoute, si tu veux, là, Hugues, je l'ai la clip. On va l'écouter, qu'est-ce qui s'est passé, pour mettre en contexte. Puis on va y revenir parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette clip-là. Et je vous propose de l'écouter. Tu disais qu'il était très sérieux. Et Félix, c'est pas gêné pour dire sa façon de penser à Gaël Monfils dans cette séquence-là.
Are you thinking to the 80 views?
It's kind of a 80 people. Yeah, that's
what. Are you telling me that's normal?
What are you referring to?
He sits down for like 30 seconds?
Yeah, I'll talk to him about that.
I mean, that's a time I'll leave in the morning. It's not, I'm going to talk to him.
Yeah.
Because I can play games too.
Absolutely.
I can play games too.
No, I'm totally good.
Je sais pas quoi tu joues, quoi.
As you can see, this is just had a little bit of Tabasco thrown into the mix here.
Alors voilà, vous l'avez entendu, là, il y a un petit peu de tension là, dans ça, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, l'argument, entre guillemets, se termine avec les deux joueurs qui ont l'air de se comprendre. Et là, Félix, il dit, ben, est-ce qu'on joue avec les règlements de l'ATP? Il s'est même retourné vers Gaël Monfils en disant, à quoi tu joues? À quoi? Et c'est pas très caractéristique de Félix, là, de, entre guillemets, lever le ton. Tu sais, c'est pas son genre.
Il dit, I can play games. C'est moi aussi. Fait que, tu sais, tu vois, par exemple, qu'il prend ça au sérieux. Lui, c'est du sérieux parce qu'il le sait qu'il a besoin de ces parties-là pour se relancer.
Exactement.
Mais en même temps, le format de cette compétition-là est un format où, écoute, c'est fait pour la télé, on veut avoir du fun. Et de l'autre côté, Gaël, mon fils, il est probablement le meilleur candidat avec Nick Kyrgios pour ce genre de compétition-là où tu veux un show, tu veux, tu sais, il n'y a pas de points au circuit de l'ATP. Peut-être que d'un autre côté, il faut comprendre ça également. Mon fils, après, il a carrément fait un post pour dire, bon, je sais qu'il y en a qui pensent que, il ne l'a pas dit exactement comme ça, là, je résume sa pensée là, de mémoire, mais qui pense que je suis un peu un bouffon, là, c'est un peu ça qu'il a dit, mais il a dit, tu sais, je suis ici pour avoir du plaisir et je veux jouer avec du plaisir et on m'invite ici, puis on m'invite.
Oui.
Il est 140e mondial, il n'est pas été invité pour son classement. Là.
Et effectivement, c'est pas incompatible de jouer avec du plaisir et de faire un peu le show, puis d'en mettre un peu plus qu'il faut à l'occasion. Puis c'est ça qui fait que c'est vraiment intéressant et c'est bon pour le tennis. Et tu l'as dit, Kyrgios est un des joueurs qui a participé le plus souvent à la Coupe Laver aussi. Et c'est des joueurs comme ça qu'on veut. Moi, je trouve que Félix a paru un peu plate, en fait, là-dedans. Parce qu'Isabelle le dit, on comprend le contexte. Il veut se relancer. C'est pas une bonne saison. Il veut bien faire. Fait qu'il était pas en mode... Il était pas là pour rigoler. Il y a Francis Tiafoe qui a fait une sortie ce matin aussi pour dire qu'il était plutôt du côté de mon fils, même s'il jouait dans la même équipe que Félix pour Team World. Donc, je pense que le contexte était intéressant et c'était très, très révélateur de beaucoup de choses, cette altercation-là entre les deux.
Ben moi, je vais continuer de mettre ma cape Félix Auger-Aliassime à tous ses détracteurs. Qui disent que par bout, il manque de caractère, manque de hargne. Ben là, hein, vous venez de l'avoir la preuve. Match hors concours, et il dit « Hey, on peut-tu garder les choses sérieuses? » Moi, j'aime ça. Là. Mais je comprends le contexte également. Isa, t'avais l'air de vouloir acheter quelque chose.
Ben moi, je trouve qu'on fait une tempête dans un verre d'eau.
Ben là,
c'est parce que c'est notre Félix national, puis là, on en met partout. Là. Mais écoutez, là, des quipropos, il y en a plein. On en regarde du tennis, on le sait, ça se passe. Bon, Alex, ils se sont parlé, ça s'est fait en français et en anglais. Là, je pense que...
Après le match, il n'y avait pas d'embrouille non plus. Oh, ils se sont serrés la main, c'était bien correct. Puis,
ils sont allumés en plus.
Ben oui.
La seule chose, il n'y avait pas autant de plaisir dimanche, mon fils, lorsqu'il regardait ses coéquipiers perdre. Mais bon, ça fait partie. Puis c'est un spectacle. Puis pour avoir du plaisir, pour aller voir comme l'échange pour vendre le tennis. Puis moi, même s'il n'y avait pas les numéros 1, j'ai apprécié le spectacle. J'ai aimé ce que j'ai vu. J'aurais aimé voir un peu plus de double. Je trouve que c'était le fun dimanche qu'on commence avec la partie de double parce que c'est un sport qu'on ne voit pas assez souvent à la télévision.
Moi, je suis vendu à ce concept-là. Je suis vendu au tennis a priori. Fait que je vais le regarder. Je suis sûr que pour le grand public, c'est plus vendeur si t'as Alcaraz, si t'as Djokovic, si t'as Nadal, par exemple. Mais j'avoue que moi, je m'en balance un peu si le spectacle est bon d'avoir Arthur Fils. T'sais. Mais ouais. Je comprends que ce n'est pas aussi vendeur. Mais bon, ça m'amène à parler des certaines critiques. Je te disais en début d'intervention, Hugues, que bon, la lune de miel, elle est peut-être finie. Et toi, tu disais, ben, Federer, il était un peu en damage control à certains moments là, pour dire, ouais. Ben, il répondait aux critiques. Les critiques qui ont été données, c'est de dire, ben, là, est-ce que c'est. Il faut donner une identité claire à cette compétition-là. Est-ce que c'est un tournoi où on s'amuse ou est-ce que c'est un tournoi sérieux? Et ça, ben, la question, elle est pas 100% répondue encore. Et d'après toi, est-ce que c'est. Et puis là, je m'adresse aux deux experts marketing que j'ai avec moi. Est-ce que c'est une bonne chose de dire, ben, regarde, on est à mi-chemin entre les deux, puis il y a du plaisir en même temps de gagner sur le terrain, ce qui, moi, m'irait totalement? Ou est-ce qu'on devrait dire, ben, regarde, la Coupe Laver, là, il y a le trophée de Rod Laver fondu dans la coupe. Fait que, regarde, ça devrait être important pour un joueur de vouloir le gagner. Ça va devenir aussi prestigieux que, peu importe, la Coupe Ryder au golf, par exemple.
J'allais prendre ce parallèle-là. C'est la Coupe Ryder du tennis. Là, c'est vers ça qu'ils doivent aller et le plus rapidement possible. Mais le problème, encore une fois, c'est le nombre de tournois semaine après semaine. Ouais. Il y a eu des matchs de Coupe Davis de haut niveau il y a deux semaines. Il n'y avait pas un chat dans les estrades. Donc, les gens ne peuvent plus suivre à un moment donné. Tant au niveau de la télévision qu'au niveau des billets vendus sur place, ça devient un enjeu. Donc, il faut que tu fasses une mise en marché qui est sans faille. Mais avoir les joueurs aussi pour le tournoi, tu n'as pas le choix. Mais jusqu'à maintenant, ils ont réussi. C'est la première année, la sixième édition, où il y a eu du relâchement un peu avec l'engagement des joueurs. Ils sont à peu près à la même fenêtre que l'an passé aussi. Mais on se souvient que l'an passé, c'était la retraite de Federer. Donc, ils ont atteint un maximum il y a un an parce que c'était toutes les émotions étaient en place. Mais je pense qu'encore une fois, il faut que Federer, Team 8, qui est sa compagnie, avec Tennis Australia, qui est le co-investisseur là-dedans, s'assure que les joueurs de premier plan soient présents. Peut-être pas les top 3 nécessairement, mais il faut des gros noms. Sinon, au tennis, on le sait, les gens décrochent assez vite. Un Casper Ruud, il ne drive pas beaucoup, Casper Ruud, même s'il est 8e mondial.
Si Federer avait gagné 9 Wimbledon, est-ce que sa compagnie serait Team 9? Je pose la question. Il faudrait lui demander directement. Les autres critiques qui ont été faites et que j'ai notées, ben, c'est de dire, OK, ben, on a une équipe monde, mais c'est Canada et États-Unis. Est-ce que c'est bon de dire équipe monde alors que, ben, principalement, on a une équipe nord-américaine? Ça veut me dire, ouais, mais les stars qui voulaient y aller jouer, ben, ils venaient de là. On a surfé sur la vague Ben Shelton. Félix, il attire toujours beaucoup d'attention également. C'est pas juste ici au Québec, au Canada. Mais est-ce qu'on devrait, je sais pas, aller chercher des joueurs asiatiques, des joueurs sud-américains, par exemple? Ben, on en avait, là. C'est Rundulo. Mais, tu sais, les vedettes, je sais pas. Est-ce qu'on devrait, en tout cas, je pose la question. Est-ce qu'on devrait sortir de l'Amérique du Nord pour les grandes vedettes? Mais en même temps, c'est un peu le contexte. C'est conjoncturel d'une certaine manière.
Oui, puis je pense que ça démontre bien comment le tennis en Amérique du Nord va bien quand on regarde le nombre d'Américains, mais c'est parce qu'on avait quand même des très bons joueurs, tu sais, Francis Tiafoe, Ben Shelton, moi qui m'a impressionné. Moi, on découvre cette année ce joueur-là et j'ai aimé le voir à l'œuvre, j'ai aimé voir son caractère encore là, en ses services rapides, en double, en simple, c'est comme... J'ai beaucoup aimé sa performance. Je pense qu'on ne peut pas commencer à dire c'est monde, oui, mais dépendamment c'est qui est-ce qui sont là, on veut avoir dans les meilleurs joueurs. Je ne veux pas avoir absolument un joueur d'Asie parce que ça prend quelqu'un d'Asie. Je veux avoir quand même des joueurs qui vont me donner un beau spectacle.
Isa, toi, là, comme spectatrice un peu plus amatrice, je veux dire comme ça, est-ce que pour toi, le fait que c'est pas clair si c'est une compétition sérieuse ou un showcase où on met nos vedettes avec du fun, c'est un problème pour toi ou toi, au moment où on se parle, le format de va, puis tu trouves ça divertissant?
Ben, moi, c'est comme la Coupe Ryder. Pour moi,
il faudrait que ce soit sérieux.
Ben, c'est sérieux, puis plaisir en même temps. Pour moi, de toute façon, n'importe quel athlète professionnel, c'est toujours sérieux. C'est comme, tu veux,
en tout cas, pour Félix, c'est
non. Non, mais chaque personne définit son sérieux de différentes façons. Il y en a pour bien performer, ils doivent avoir du plaisir. Mon fils, c'est sa personnalité. Même quand il est dans l'ATP, c'est celui qui interagit avec la foule. Kyrgios, c'est la même affaire. C'est des types de joueurs, c'est des personnalités. peu importe la compétition. Fait que pour moi, c'est pas de dire on prend au sérieux ou pas. Moi, j'ai vu que ça a été pris au sérieux. C'est ta personnalité qui ressort. Et bien, il y a quand même un enjeu. Maintenant, tu sais, je regarde juste la partie qui a été faite en double après, à la fin, quand le monde avait gagné. D'ailleurs, Milos Raonic avec Eubanks ont joué. C'était du sérieux quand même.
Ouais.
C'était exhibition, mais c'était du sérieux. C'était un bon spectacle. C'était agréable. Fait que, est-ce qu'il faut qu'il y ait des points en jeu dans l'ATP pour dire que ça va être agréable à regarder puis que tu prends ça au sérieux ou pas? Moi, je pense pas.
Mais, je suis d'accord avec toi. C'est juste que quand on fait la comparaison avec la Coupe Ryder, mais c'est prestigieux pour les joueurs de golf et ils le prennent très au sérieux.
Ouais,
c'est
longtemps.
Mais voilà, ça, c'est la durée qui va amener ça. C'est la durée qui va amener ça.
Peut-être. T'as 100% raison là-dessus, Isa. Oui. Probablement que c'est encore trop jeune. Puis, tu sais, je veux dire, évidemment, il y a peut-être pas le prestige associé à une compétition aussi jeune encore. Là. Qu'est-ce que tu as dit?
Il faut apprendre à marcher avant de courir.
Ah, ben ça, c'est tout à fait vrai. Ben voilà, la Coupe Laver, ça a fait beaucoup jaser. Moi, j'avoue, je reste quand même assez fan de ça. Ça a été une victoire sans équivoque de l'équipe monde nord-américaine pour certains, 13-2, sans les grandes vedettes. Mais moi, j'avoue, je reste quand même fan. Si vous le voulez bien, on va faire une courte pause. Et au retour, il y avait quand même des tournois sur le circuit d'ATP de la WT. On va regarder ce qui s'est passé de ce côté-là.
Séjournez dans l'une des magnifiques suites entièrement vitrées de l'hôtel Montville. Vous serez gâtés grâce à un 30% de rabais sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive. Ambiance décontractée, design très recherché, techno bien maîtrisé, toujours amical, Montville, c'est Montréal. Venez découvrir cet hôtel incontournable et son restaurant Monem, qui met de l'avant des cocktails créatifs et des plats généreux inspirés de la gastronomie française. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banc National. Après notre résumé sur la Coupe Laver, il y avait d'autres tournois à surveiller. Et je veux qu'on parle de Guadalajara. Bon, dans un premier temps, il y a eu des résultats intéressants du côté canadien. Léla Fernandez a quand même bien fait cette semaine, Hugues, dans les circonstances.
Oui. Quart de finale, belle performance. Et Léla, qui mine de rien, là, remonte très bien au classement, se retrouve au 60e rang. Elle a battu quand même Elise Mertens, qui était 13e favorite du tournoi. C'est un bon tournoi pour Léla. Elle joue bien au Mexique. On sait qu'elle avait gagné à Monterrey déjà. C'est une période qu'elle affectionne assez particulièrement. Et je suis content que ce tournoi-là, qui remplaçait un des WTA 1000 en Chine, arrive à Guadalajara parce qu'il semble bien servir pour nos joueuses canadiennes. Il y a souvent plusieurs Canadiennes qui sont dans le tableau. Il y en avait 3 ou 4, je crois, en début de tableau. Mais pour Léla, encore une fois, on voit du progrès semaine après semaine en ce moment.
Oui, quand même, elle a battu Navarro, qui a battu d'excellentes joueuses dans les dernières semaines. Tu l'as dit, elle a joué contre Mertens. Elle a fait une belle performance contre Sofia Kenin. Et là, Sofia Kenin, si vous nous écoutez depuis 2 ans, c'est peut-être pas un nom que vous avez entendu beaucoup, mais c'est quand même une fille qui a gagné un grand chelem en Australie il y a quelques années. Alors, qu'elle ait fait une belle performance, je pense que, honnêtement, depuis Montréal, il y a quand même du positif pour Léla. On s'est dit, ici et là, il y a des reculs, mais quand on regarde la dernière partie de la saison, là, je pense que c'est beaucoup plus positif que ce qu'elle était en début de saison.
Elle a monté de 14 positions au classement depuis un mois quand même.
Alors, c'est quand même une belle performance. Elle a battu la Canadienne. J'allais dire n'importe quoi. Là, j'ai la fiche de Sofia Kenin sous les yeux, qui a battu Carole Jaot, soit dit en passant. Alors, elle a eu une dent contre les Canadiennes. Sofia Kenin dans ce tournoi-là. D'ailleurs, elle a battu aussi Ostapenko, Sofia Kenin. Alors, que Léla Fernandez ait tenu Kenin, c'est une bonne performance. Parlant de bonne performance, il y en a une autre sur laquelle Nico et moi avons perdu beaucoup d'argent dans nos pôles. Maria Sakkari, on aurait eu intérêt à gager sur elle parce qu'enfin, elle remporte un titre intéressant.
On est content pour elle. Écoute, son deuxième titre, elle avait gagné à Rabat, je crois que c'était en 2019, 2 demi-finales, US Open, Roland-Garros quand même pour Sakkari, mais c'était l'éternelle perdante en quart de finale ou en demi-finale. C'était quasiment devenu un running gag. Elle a eu un US Open difficile, sortie au premier tour, elle s'effondre en larmes, elle dit « je pense que je vais arrêter, ça va pas ». Elle se ressaisit et revient pour gagner son deuxième tournoi WTA 1000 à Guadalajara. Bravo Maria Sakkari, je suis super content pour elle.
Oui, c'est une fille qui n'a pas fait beaucoup de bons résultats dans les dernières semaines. Là. Bon, elle avait fait la finale à Washington, mais défaite rapide à Wimbledon, défaite rapide à Montréal, défaite rapide à Cincinnati, défaite rapide à New York. Et là, finalement, un titre important à Guadalajara, qui est un WTA 1000, il faut le mentionner. Ouais. Alors, pour Zachary, c'est vraiment une bonne nouvelle pour elle. Et c'est une fille que, depuis longtemps qu'on sait qu'elle est capable de gagner ce genre de titre-là. Est-ce que tu penses que c'est game changer, Isa, pour une fille comme Zachary, là, qui va connaître peut-être une fin de saison spectaculaire?
Bien, en fait, ce qui change, c'est sa façon d'adresser les parties. Elle l'a dit en entrevue comme quoi elle prenait ça tellement sérieux. Elle arrivait stressée qu'elle n'arrivait pas à performer. Et là, elle est un peu plus relâchée. Elle a décidé d'avoir du plaisir et ça a été payant. Donc, on fait un petit parallèle tantôt à la discussion qu'on avait. À un moment donné, le juste équilibre entre prendre ça au sérieux, mais aussi d'arriver relâché. On le sait, là, moi, je suis amateur de tennis. Quand je deviens trop stressée, je fais n'importe quoi avec ma raquette. Bien, même si tu es professionnel, à un moment donné, lorsqu'il arrive des points importants, il faut être capable de jouer avec ce relâchement-là. Et je pense que c'est ça qui a fait de la différence. Et oui, j'espère que ça va pouvoir teinter le reste de sa saison et même de sa carrière parce que c'est une joueuse sérieuse qui s'entraîne fort, qui a une très belle technique, qui est agréable à regarder jouer. Et je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite.
Il y a Eugénie Bouchard qui était aussi dans ce tournoi-là. Hugues, elle a quand même passé le premier tour. C'est quand même déjà pas si mal un WTA 1000 qu'elle puisse avoir passé le premier tour dans son cas. Peut-être une mention rapide sur Ons Jabeur là, qui a perdu assez rapidement dans le tournoi contre Trevisan. Et on s'en reparlait, toi et moi, la semaine passée en se disant ça devrait être une finale entre Ons Jabeur et peut-être Zachary. Ons Jabeur qui a perdu assez rapidement. Alors, c'est un peu décevant de ce côté-là. Je ne sais pas trop quoi penser des derniers moments de Ons Jabeur, mais écoute, c'est pas. On le dit, là, c'est tough gagner semaine après semaine sur le circuit de la
WTA. Ouais, ben c'était effectivement un tableau un peu dégarni.
Oui, pour un mille, en tout cas, ça, c'est sûr. Là.
Avec Jabeur et Zachary comme favorite, une et deux. Encore une fois, un positionnement dans le calendrier qui n'est pas évident. Il y a certaines joueuses qui prenaient une petite pause avant la tournée asiatique aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles qui y vont en ce moment. Mais bon, Ons Jabeur, elle a eu des hauts et des hauts et des bas. C'est des performances qui ne sont pas très constantes cette année. Encore une fois, nouvelle défaite à Wimbledon. On verra pour la suite, mais elle a quand même baissé un petit peu au classement. Elle est rendue 7e ou 8e, je crois, cette semaine, Ons Jabeur. Donc, ce n'est pas une très, très bonne saison pour elle. Mais bon, encore une fois, c'est une des joueuses les plus intéressantes du circuit par son jeu créatif et sa grande versatilité. Mais je pense que les joueuses commencent à savoir comment jouer. Elle n'aime pas jouer contre des très, très grosses cogneuses. Elle se fait bousculer par une fille comme Sabalenka maintenant. Donc, je pense que c'est un peu plus difficile pour Ons Jabeur en ce moment.
Ouais, on s'en parlait la semaine passée. C'est pas un tableau qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros noms. Là. On a parlé de Ons Jabeur et de Zachary. Il y avait Caroline Garcia, il y avait Kudermetova, Ostapenko, mais il reste que Stacy Fung est dans le tableau principal. Là. Je suis convaincu que la plupart du monde n'ont aucune idée que la Canadienne 226e au monde. Je veux dire, va te promener dans la rue, parle de Stacy Fung, pas mal sûr que sa équipe
était dans le tableau principal. C'est une opportunité pour plusieurs joueuses.
Exact.
Je suis content que Zachary l'ait gagné, mais il y a plusieurs joueuses qui ont quand même fait des points et des bonnes bourses la semaine dernière.
Isa, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, j'étais un peu d'accord avec toi. Je faisais juste confirmer avec la tête. Je parle beaucoup avec mes yeux et ma tête.
Ah, ben voilà. C'est intéressant comment tu le dis. C'est une opportunité pour des joueuses. Ouais. Écoute, transporte ça du côté des hommes, là. Alexis Gallardon aurait probablement été dans le tableau principal avec Stacy Fung qui est 220e mondial. Ouais, alors qu'Alexis Gallardo, il n'a pas encore ce classement-là nécessairement. Alors, c'était quand même intéressant et tant mieux. Zachary, le tournoi était là pour elle à prendre ou à Ons Jabeur et elle l'a pris. C'est pas si facile que ça de gagner quand t'es la favorite ou le favori. Alors, chapeau à Zachary. De notre côté, on va faire une courte pause et au retour, on va voir Abraham Santerre qui va venir nous parler notamment d'Alexis Gallardo. Une autre excellente semaine. Et Isa, on va se parler, toi et moi, de Billie Jean King, une de mes préférées. Tout ça après la pause.
Séjournez dans l'une des magnifiques suites entièrement vitrées de l'hôtel Montville. Vous serez gâté grâce à un 30% de rabais sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive. Ambiance décontractée, design très recherché, techno bien maîtrisé, toujours amical, mon ville, c'est Montréal. Venez découvrir cet hôtel incontournable et son restaurant Monem, qui met de l'avant des cocktails créatifs et des plats généreux inspirés de la gastronomie française. Rendez-vous sur hotelmonville.com.
Oui, il y avait des gros tournois cette semaine, mais on gardait quand même un œil sur un certain Alexis Galarneau. Il y a une Canadienne qui a impressionné. Et ben, comme je veux que ça devienne une nouvelle tradition, le bon Abraham Santerre va venir nous parler des autres Canadiens, ceux qu'on suit un peu moins, quoique Alexis, on peut pas dire qu'on le suit pas. Et d'ailleurs, j'en profite parce que Alexis est allé, je sais pas si tu as vu ça, il a commenté sur nos médias sociaux en disant qu'il acceptait mes excuses.
Il y a un grand cœur, franchement. Là, il y a un grand cœur.
Hein. Merci, j'ai mal dormi pendant si longtemps d'avoir douté. Et ben, c'est bien cool de savoir aussi qu'il nous écoute ou je ne sais pas si ça s'est rendu à ses oreilles, mais encore une fois, là, quel travail d'Alexis. Abraham, j'en dirai pas plus parce que tu as des méchantes bonnes nouvelles pour nous concernant Alexis Galarneau.
Ben oui, Alexis Galarneau de retour dans le top 200 avec une finale à Columbus. Un tournoi où il a vraiment bien performé. Là. Il n'a pas perdu une manche avant la finale. Puis il a aussi battu là-dedans la première tête de série du tournoi, 6-3-6-4, Enzo Cuoco, qu'on avait pu voir à Granby en action. Ouais. Vraiment une belle semaine pour Alexis, qui malheureusement, en finale, hier, ça a été plus difficile contre Denis Kudla, l'Américain. Il s'est incliné 6-2-6-1, mais c'est pas grave. Écoute, Alexis, là, il est de retour à la 176e position au classement. Son meilleur classement, c'était après Granby, où il était 162e. Donc, c'est juste des bonnes nouvelles, surtout avec la Coupe Davis dernièrement. Alexis, là, c'est vraiment, il y a du potentiel, là, et la saison n'est pas terminée. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, là.
Je vais ajouter un petit point. Il est effectivement sur une très belle lancée, Abraham, tu as raison. Puis il était autour de la 200e au moment du US Open où il avait perdu, on s'en souviendra, contre Stryker, qui avait fait un très beau tournoi au US Open. Alexis a changé quelque chose dans son jeu. On voit qu'il peut tenir un rythme plus élevé. Il joue à une cadence plus élevée. Et c'est ça qui fait qu'il peut battre des gars comme Sonego, maintenant, qui a battu à la Coupe Davis. Donc, il est vraiment sur une lancée et on sent que son jeu est passé à un autre niveau. Donc, belle finale, effectivement, à Columbus cette semaine.
Ouais, c'est un vétéran de circuit en plus, Denis Kudla. Là, je dis pas que c'était pas à la portée d'Alexis, ça l'était, je pense, quand on regarde les résultats qu'il a fait dans les semaines précédentes, particulièrement à la Coupe Davis. Là. Mais c'est quand même un gars qui a fait une coupe de demi-finale sur le circuit de l'ATP, Denis Kudla. C'est un gars que ça fait longtemps qu'il est sur le circuit à 31 ans, qui a déjà été très, très, très bien classé chez les juniors, là, bon, alors qu'il était tout jeune. Puis c'est un gars qui a déjà battu des gars comme Zverev là, dans le passé. Alors, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes. Ouais. Et bien, franchement, c'est une autre semaine positive dans le cas d'Alexis Galarneau. Et honnêtement, on en parlait pas plus tard que la semaine passée. S'il continue de gagner à cette vitesse-là, attention pour l'Australie, parce qu'elle pourrait très bien se rapprocher d'un tableau principal. Je ne vais pas lui mettre plus de pression qu'il faut. Mais
oui, c'est ça que j'allais dire. Là. Alexis, il cogne à la porte des gros tournois. Là. Il est proche de pouvoir aller dans les ATP 250 et ces tournois-là. Puis une fois rendu dans ces tournois-là, ça va être beaucoup plus...
Il n'a pas de points à défendre. Il n'a pas de points à défendre. Alors, dans le cas d'Alexis, ce sera que du positif, je pense, d'ici la fin de la saison. Je pense qu'on est en train d'assister à l'éclosion d'Alexis Galarneau chez les professionnels. Je pense que c'est un peu ça qu'on a vu dans les dernières semaines.
Il y a eu un déclic, je pense, à la Coupe Davis. Là. C'est un niveau de confiance qu'il a emmagasiné maintenant. Il sait qu'il peut rivaliser avec des top 40, top 50, top 30. Donc là, sky is the limit pour lui. Ça fait vraiment plaisir à voir.
Exact. Et tu sais, on l'avait vu contre Grigor Dimitrov il y a 2 ans à l'Omnium Banque Nationale, mais là, de le faire régulièrement et les victoires qu'il a eues, comme je dis, en Coupe Davis, ben franchement, il est en train de faire écarquiller beaucoup d'yeux et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont commencer à le prendre plus au sérieux. Parlant de joueurs et ou joueuses qu'on devra prendre au sérieux, il y en a une autre qui, écoute, commence à avoir des résultats plus que probants sur le circuit de la WTA ou en tout cas, dans son cas, sur le circuit Challenger. Abraham, tu veux nous parler de Marina Stakušić qui continue quand même d'attirer l'attention.
Ben oui, Marina Stakušić qui, je vous le rappelle, est âgée d'un an de moins que moi. Elle a encore 18 ans et elle a 2 titres professionnels de plus que moi. Donc, c'est vraiment fort. 2 titres professionnels et tout ça en septembre. Elle avait gagné en Espagne au début du mois et là, elle s'est imposée à Berkeley en Californie. Et d'une manière vraiment convaincante. Là, elle, elle a perdu aucune manche et elle a vaincu la première tête de série du tournoi sur abandon. Par exemple, Madison Brangle, qui, elle, est quand même 115e au monde au moment de leur affrontement. Toute une performance de Stakušić qui vraiment vient montrer qu'elle est vraiment là pour challenger les autres joueuses. Et le tournoi de Berkeley, c'est un tournoi W60. W60, c'est le niveau du tournoi qui aura lieu à Saguenay du 15 au 22 octobre prochain, le Challenger Banque nationale de Saguenay. Donc, selon moi, nous, de notre côté, je suis à Jonquière, au Saguenay, on a vraiment hâte de voir si elle va venir puis d'avoir une championne canadienne, probablement. Avec cette victoire-là, Victoria, Marina, elle est vraiment... montrer qu'elle peut jouer du gros tennis. On l'avait vu à l'Omnium Marc National. Et elle a aussi vaincu sa compatriote Victoria Mboko dans le tournoi, là, au deuxième tour, si je ne me trompe pas. C'était au deuxième tour. Donc,
deuxième tour.
C'est vraiment intéressant.
Non, mais ça, puis, ben, franchement, on parle souvent de Kayla Cross et de Victoria Mboko comme étant considérées parmi les plus beaux espoirs du tennis canadien. Mais si je ne me trompe pas, Marina Stakušić, elle n'a que 18 ans. Alors, exact. Elle est encore tout jeune. Elle a presque pas joué en début de saison. Et là, ben, écoute, à Grimby, quand elle a fait son quart de finale, ben, elle avait joué que 3 matchs avant ça. Et elle joue des tournois depuis ce temps-là ou à peu près, là. Alors, écoute, c'est assez phénoménal ce qu'elle réussit à faire avec si peu de matchs dans le corps depuis le début de la saison. Elle avait rivalisé contre Alicia Parks à l'Omnium Banque Nationale. On s'en souviendra, on en a parlé tout le week-end à quel point sa performance, elle avait été incroyable contre une fille top 40. Et là, dans ce tournoi-là, tu vas me dire, ben, elle a joué contre une fille qui s'est retirée, mais Madison Brangle, c'est quand même une fille qui a été top 35 dans sa vie. Exact. Et elle l'a battue. Alors, je pense qu'il faudra garder un œil certain sur Marina Stakušić parce qu'elle a des résultats très, très, très probants dans les dernières semaines et elle va voir son classement, elle aussi, je pense,
monter. Parlant de classement, là, maintenant, Stakušić, elle est 301e au monde. C'est son meilleur classement. Puis c'est juste appelé à monter là, avec ses performances-là. Hein. Il y a du potentiel pour le futur.
Rappelez aussi que son frère aussi, Marco, a fait notamment partie du centre national. Ouais. Bon, il n'est plus nécessairement lui non plus associé au Canada. Je ne crois pas qu'il joue sous la bannière canadienne, mais tout comme Aaron Rutliff, c'est un Canadien. Il a d'ailleurs passé par le centre national, lui aussi, Marco Stakušić. Alors, Marina Stakušić, bien intéressant. Puis honnêtement, Abraham, on s'en parlait hors d'onde, mais je trouve ça vraiment cool que tu viennes nous parler de ces tournois-là. On veut être les porte-parole, les porte-étendards du tennis canadien. Puis il ne faudrait pas oublier ces tournois-là aussi qui sont des tournois de la relève si on veut. Et puis, c'est important de garder un œil sur nos espoirs. Et Marina Stakušić en est une. Ben, merci infiniment, Abraham. J'espère qu'on se reparle dans les prochaines semaines et tu gardes un œil sur ces tournois-là pour nous, s'il vous plaît.
Ben oui, à bientôt les boys.
À bientôt. Nous, de notre côté, on va faire un saut du côté de Isabelle Étier. Isabelle, re-bienvenue sur l'émission. Tu as assisté au repêchage la semaine passée de la Ligue de hockey professionnelle féminine, dont Billie Jean King est, elle est impliquée dans ce projet-là. Rapidement, là, sans qu'on parle trop de hockey, ça s'est bien passé, tout ça, ce projet-là. On en a fait mention dans l'émission de la semaine passée.
Ah oui, tout à fait. Tu sais, des Original 9 ou Original 6, que je voudrais dire. On sait que Billie Jean King est une icône de l'équité. Elle a beaucoup à faire au niveau de l'équité des bourses aujourd'hui, au niveau du tennis. Mais là, elle transcende son sport et c'est aussi une présence au niveau du hockey. Elle et sa conjointe, d'ailleurs, et la Billie Jean King Enterprise, qui sont des copropriétaires de la nouvelle ligue de hockey professionnelle. Et j'aimerais vous mentionner un peu le discours avec lequel elle a ouvert, parce que ça m'a beaucoup touchée quand elle parle que c'est un incroyable moment, tu sais, c'est les assises de cette ligue professionnelle-là, mais ce n'est pas simplement un moment, mais c'est un mouvement. Et elle, depuis plus de 50 ans, c'est ça qu'elle fait. Elle a créé ce mouvement de changer-là, de changement, d'amener la place des femmes à avoir une équité. Puis, ça me fait penser que c'est, on célèbre les 50 ans de la fameuse Battle of the Sexes. Le 20 septembre 1973, rappelez-vous, il y avait cette partie entre Billie Jean King, alors âgée de 29 ans, et Bobby Riggs, qui était âgé de 55 ans, l'ancien numéro 1, et qui a eu cette partie qui a fait probablement, qui est la source de beaucoup de bonne publicité pour le hockey féminin, pas pour le hockey féminin, là, je fais un lapsus parce que j'ai parlé de hockey, mais de tennis féminin. Rappelons-nous que durant cette partie, on a eu, c'était 30 000 personnes qui étaient présentes dans le stade à Houston. On parle de 90 millions à travers le monde qui auraient vu cette partie. Et bon, si on est un peu plus jeune comme moi et Alex et Hugues aussi, on peut regarder le film qui est sorti, Fox a sorti un film en 2017, qui est The Battle of Sexes. Puis c'est Emma Stone et Steve Carell qui campent les personnages. Et c'est vraiment intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère fortement d'aller le regarder. C'est une belle façon de se rappeler l'histoire.
Mais je trouve qu'ils ont fait un bon portrait dans ce film-là de ce qui était la base du rêve de Billie Jean King. Tu sais, quand on la voit carrément parler au directeur du US Open, disant ben là, vous allez nous payer, sinon, ben moi, je ne serai pas là, puis tant pis. Et puis, tu sais, cette semaine, dans les dernières semaines, on en a parlé du fait que ben, c'était un 50 ans d'équité des bourses au US Open. Ben, c'est en grande partie grâce à Billie Jean King. Et moi, je dois avouer, tu sais, je prêche pour ma paroisse et tu parles du film. Je trouve que Emma Stone et Steve Carell ont fait un travail absolument phénoménal. Ouais, Hugues, tu voulais
Effectivement, moi, ce qui m'impressionne de Billie Jean King, c'est qu'effectivement, la mission de sa vie, elle a fait ce qu'elle disait qu'elle voulait faire. Et elle l'a prouvé à plusieurs reprises. On dit « walk the talk hein, », que les bottines suivent les babines, on dit au Québec. Écoute, elle investit en NWSL, oublions pas, au niveau du soccer, avec le Angel City FC à Los Angeles. Elle est avec le LA Spark de la WNBA, donc le basketball féminin, maintenant en PWHL. On peut juste lever notre chapeau bien bas à Billie Jean King parce qu'elle contribue de façon concrète. Et le US Open a été le premier tournoi à offrir les bourses égales la même année que le Battle of the Sexes. Donc, t'imagines, ça fait 50 ans. Donc, c'est vraiment la mission d'une vie et elle le réalise après année. Elle continue de nous impressionner, Billie Jean King. Là. C'est une sacrée réussite, un sacré avancement pour les femmes au niveau des sports.
Oui, puis tu sais, c'était très précurseur pour le US Open parce que quand on regarde dans les autres grands chelems, ça a repris quand même 11 ans plus tard pour le Australian Open, donc en 1984. Exact. Puis après ça, c'est en 2007 que Roland-Garros et Wimbledon ont enfin eu les bourses égales. Puis là, bon, on sait ici, à Montréal, on l'a annoncé cette année, ça sera très bientôt. Donc, non, c'est important de le souligner. Puis tu sais, vous l'avez rencontré, les gars, à C2 Montréal l'année dernière. Je l'ai revu. Encore cette humilité, cette curiosité. Elle est tellement accessible. C'est vraiment pas une personne qui, tu sais, comme que le succès lui a monté à la tête. Au contraire, rappelez-vous quand elle a vu le panier de basketball, elle était intéressée. Puis elle le disait, tu sais, elle n'a rien à voir avec le hockey, là, mais rien. Elle n'a jamais joué au hockey. Ça ne fait pas partie de ses racines. Mais pour elle, la cause de l'équité, de créer quelque chose et d'avoir le courage, justement, de faire les bases pour créer un environnement où ça sera une structure, une plateforme et le support pour avoir du hockey professionnel, bien, c'était tout un moment, messieurs.
Souhaitons que la paix de WHL vive et vive bien et vive longtemps. Moi, j'aime la structure salariale qu'ils ont mis de l'avant. Isabelle, tu la connais. Il faudra un peu de patience, on le sait. On a hâte de voir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est un business case qui va être négatif pendant quelques années, assurément. Mais espérons qu'ils vont tenir la route. Mais ce qu'ils font jusqu'à maintenant, je suis impressionné. Je trouve qu'ils ont fait les bonnes actions au niveau de la commercialisation, au niveau du repêchage, évidemment. J'ai hâte de voir les campagnes marketing au niveau local d'ici le mois de janvier où les matchs vont commencer.
On en parlait la semaine passée en espérant que ce soit finalement ce projet-là de Ligue féminine qui marche parce que moi, je ne me ferais absolument pas prier pour aller voir jouer Marie-Philippe Poulin. Et on en parlait aussi en début d'épisode un peu à bâton rompu en se disant ben, le fait d'un entraîneur unilingue anglophone soit sorti dans les médias, pour moi, même si c'est une controverse, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que les gens s'y intéressent. Si les gens ne s'y intéressaient pas, ben il n'y en aurait pas de controverse.
Alors, il y a un bon buzz en tout cas en ce moment.
Exact. Et franchement, le fait qu'on en jase, ben c'est que quant à moi, il y a de l'intérêt. Et bienvenue dans le domaine du hockey montréalais, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense que c'est une méchante bonne nouvelle. Ben franchement, et pour ce qui est de l'implication de Billie Jean King, ben elle a prouvé, à mon avis, à moi, hors de tout doute, que le sport féminin peut être aussi séduisant, j'ai utilisé ce terme-là, que le sport masculin. Je veux dire, quand tu regardes comment le tennis au féminin a explosé comparé à tous les autres sports.
Et les gars, la finale, les gars, les filles, excuse-moi Isabelle, la finale féminine du hockey à Pékin a fait une plus grosse écoute que tous les matchs de la NHL, donc masculin évidemment, en 2021-22. Donc, ils ont atteint 6 300 000 auditeurs, là, si on fait le total aux États-Unis et Canada. Donc, il y a plusieurs exemples aussi où on voit que les matchs avec les grands noms vont pouvoir attirer une bonne audience. On le dit au tennis, il y a plein d'exemples. Deux grands chelems cette année, Australie, US Open. Les femmes ont fait une meilleure cote d'écoute que les hommes. Donc, il y a des indicateurs favorables en ce moment pour le sport féminin et le tennis spécifiquement.
Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que dans le cas présent, c'est que ce qu'on apprend dans un sport, on peut le transporter dans un autre sport. Là, je vais faire un parallèle boiteux. Je vous ai parlé des Original Nine. Tu sais, bon, encore là, c'est 53 ans d'anniversaire le 23 septembre où il y a eu cette signature symbolique des 9 joueuses là, pour de 1$ pour créer la Virginia Slim Tour. Mais il reste que c'est quand même la base. C'est de là que tout part. Hein? Et il y avait quand même une structure. Ils voulaient créer un changement. Ils ont pris des... Ils ont osé prendre place. Et c'est la même chose qui se passe présentement du côté du hockey. Il y a de l'audace, il y a un rassemblement, il y a quelque chose qui se passe. Puis il y a des filles qui vont malheureusement arrêter de jouer au hockey parce qu'ils ne font pas partie de cette équipe-là. On a les 6 équipes avec les meilleures joueuses au monde. La différence, c'est qu'ici, au niveau du hockey, c'est dans le monde. À l'époque, au tennis, on était plus avec des joueuses américaines et australiennes. Ouais. Mais quand même, on voit l'évolution et il faut apprendre de... bien connaître son passé pour apprendre et amener de quoi dans le futur. Donc, c'est quand même un beau lien aujourd'hui.
Ils vont avoir un travail de storytelling à faire dans ce dossier-là, principalement pour vendre le sport. Et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un sport féminin. C'est vrai pour n'importe quoi. Je veux dire, va parler à des kayakistes olympiques qui sont parmi les plus grands athlètes au monde. Ils n'ont pas plus d'exposure, que ce soit masculin et ou féminin, à part une fois aux 4 ans. Alors, ils vont avoir un travail de promotion, de marketing à faire. Mais je pense que le fait que Billie Jean King soit là, elle va être... Écoute, c'est l'archétype, c'est la personne que tu veux derrière toi pour répondre aux questions sur « OK, on s'en va où? » Parce qu'elle l'a fait avec des moyens qui n'avaient rien. Puis moi, tu parles du film, là, je le réécoute à peu près une fois par année, puis j'ai des frissons, puis presque les larmes aux yeux quand je vois comment ça s'est passé, puis le contexte dans lequel elle l'a fait. Et je veux dire, aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert, là, mais là, on parle d'une fille lesbienne dans un sport dirigé majoritairement presque, exclusivement masculin, puis qui a décidé de mettre son pied à terre. Je veux dire, ça ne vous donne pas des frissons de courage, là, je veux dire, vous êtes fait en boule.
Mais Alex, on est en 2023 et la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes dans le sport, mais ce n'est pas encore la parité. C'est un programme justement à Tennis Canada d'avoir l'équité, puis il y a des efforts, puis il y a du travail qui doit se faire. Donc, c'est une réalité, et c'est encore plus vrai au niveau du hockey, mais partout, on doit prendre notre place, la femme doit avoir sa place et on doit lui laisser la place aussi. Mais c'est sûr qu'on ne s'attendra pas à la même façon de le gérer. C'est des personnalités différentes.
Oui.
Excuse-moi, Alex, vas-y.
Ouais, j'allais dire, il n'y a pas qu'un enjeu de parité. On en parlait tout à l'heure, on devait aller demander aux kayakistes. Il n'y en a pas plus d'exposés. Il y a plus large que ça. Mais je pense que si c'est bien marketé, si c'est bien fait, je ne verrais pas pourquoi ça ne serait pas tout aussi populaire que le tennis. Et le tennis l'a bien réussi. Hein.
Ce qui est important, c'est que je le dis souvent, hein, parce que c'est un modèle d'affaires, c'est un business case qui n'est pas positif encore. Il faut qu'il y ait des investisseurs, il faut qu'il y ait des commanditaires qui embarquent. Et pour conclure sur la... PWHL, le fait que Canadian Tire embarque comme premier gros commanditaire, ils sont commis sur 3 ans, plusieurs millions. Ils sont commis aussi à ce que 50% de leur investissement de commandite jusqu'en 2026 soit dans le sport féminin. Il y en a d'autres qui vont venir après, qui vont emboîter le pas parce que ça fit bien sur des modèles de gouvernance. C'est ce que la Banque nationale fait avec Tennis Canada notamment. C'est un pilier important de leur programme de gouvernance interne. Mais il faut ce genre d'investisseurs-là ou de commanditaires-là pour aider à tirer tout ça vers le haut. Et éventuellement, le public va suivre parce que ça va être un bon spectacle, mais ils vont être là dans la durée. Ça ne peut pas durer 6 mois, 1 an pour que les gens réussissent à embarquer. Il faut un peu de durée. Donc, après 2 ans, 3 ans, avec les meilleures joueuses, avec des bons investisseurs, avec des bons commanditaires, toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne.
Ouais, moi, je te dis, avoir un peu d'argent, c'est sûr que j'investirais dans une ligue comme ça, parce que le sport féminin, il y a une méga place à prendre au niveau du marché. Et moi, avoir les moyens, là, j'investirais, c'est 100% sûr. Probablement même dans cette ligue-là, je pense qu'ils ont un bon départ. Là, je le ferais en mon nom, ça, c'est sûr. Isa, c'est cool que tu nous aies parlé de ça. Je pense que je me plaindrai jamais de parler de Billie Jean King. Oui, on l'a vu à C2 Montréal, puis je ne reviendrai pas là-dessus à quel point ça a été une rencontre significative pour moi, mais je pense que ça vaut la peine qu'on en parle et qu'on rappelle au monde à quel point le tennis, d'une certaine manière, et particulièrement Billie Jean King, a été chef de file dans l'avancement du sport au féminin.
Et elle continue.
Largement chef de file comparé aux autres sports. Les autres commencent à, entre guillemets, catch up, mais le tennis était 30, 40 ans avant tout le monde.
Tout à fait d'accord avec toi.
T'sais, je veux dire, on parle encore, tu sais, il fait juste parler des années de Steffi Graf ou de Monica Seles. On en parlait il y a 25 ans déjà, ça avait une belle popularité. Enfin. Merci beaucoup, Isa. Hugues, comme Nicolas Richard n'est pas là, c'est toi qui auras la lourde tâche de terminer l'épisode d'aujourd'hui. Alors, voilà, à toi, mon cher.
Ben, bon tennis, Isa. Bon tennis, Alex. Bon tennis d'automne, tout le monde. Il nous reste des belles journées à l'extérieur. Profitez-en. Bon tennis.